La lutte pour le maintien de la souveraineté du Mali va de l'avant. Cette lutte a désormais très clairement deux volets, militaire et économique. Dans notre dernier Zoom Afrique daté du 1er avril 2022, nous avons évoqué que la coopération militaire se renforçait entre Bamako et Moscou. En effet, dans le cadre du renforcement de ses capacités militaires, afin de mieux sécuriser son territoire en proie aux attaques terroristes, le Mali a réceptionné de nouveaux équipements militaires de fabrication russe. Il s'agit essentiellement des matériels technologiques pour le renseignement militaire. Le matériel a été réceptionné à l'aéroport de Bamako par le ministre malien de la Défense, Sadio Camara. Voici ce qu'en dit le ministre à ce sujet.
Aujourd'hui, les équipements que nous recevons rentrent dans le cadre de la montée en puissance des FAMA. Les FAMA continueront à se renforcer en matériel, en personnel et en formation, toujours au service du peuple malien. C'est le fruit d'un partenariat sincère avec un vieil ami du Mali, la Russie.
Mais quelles sont les compositions de cet arsenal précieux qui émerge sous le nez et la barbe des bases françaises et surtout de la base américaine d'Agadez où US Air Force a récemment fait déposer un B-52. À l'heure actuelle, on sait que des avions de transport militaire AS-124 sont arrivés au Mali, qui ont livré des hélicoptères de combat, une station radar avec un rayon de vision allant jusqu'à 450 km et d'autres équipements à la République africaine, lit-on à ce sujet sur Aviapro. Il faut également savoir que les radars Voronej constituent la génération actuelle de radars d'alerte précoce russes qui assurent la surveillance à longue distance de l'espace aérien contre les attaques de missiles balistiques et la surveillance des aéronefs. Les radars Voronej sont décrits comme hautement préfabriqués, ce qui signifie qu'ils ont une durée d'installation de plusieurs mois plutôt que de plusieurs années et qu'ils ont besoin de moins de personnel que les générations précédentes. Ils sont également modulaires afin qu'un radar puisse être mis en service partiellement tout en étant incomplet. Visiblement, les nouveaux équipements militaires russes arrivés au Mali sont destinés à surveiller les agissements aériens de l'axe US-France-OTAN dans le Sahel et il est fort à parier que le Mali est en train de devenir le pays de surveillance de ces agissements et ce, en connexion avec l'Algérie qui, elle, a des missiles et antimissiles. On peut clairement dire que ceci est l'ébauche d'une DCA intégrée anti-US-France. Mais ce volet militaire va avec un volet économique. Les manifestations anti-occupation se poursuivent au Mali et les manifestants ont exigé ce vendredi le retrait du Mali de la CEDEAO. À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, les manifestants à l'aide de banderoles et de slogans hostiles à la CEDEAO ainsi qu'à la France se sont retrouvés place de l'indépendance à Bamako ce vendredi. Ils ont notamment réclamé l'autonomie monétaire du Mali qui est depuis le 9 janvier sous le coup de sanctions. Les manifestants souhaitent aussi que le Mali se retire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces manifestations sont clairement une prélude du retrait du Mali des instances soumises à la dictature du franc CFA. Depuis que l'ex-OTAN a imposé des sanctions sans précédent contre le Mali et que ce dernier a décidé de se débarrasser de toute dépendance, que ce soit dans le domaine économique ou militaire de cet axe, Bamako se penche de plus en plus vers des systèmes d'échange basés sur le troc afin d'éviter tout recours au franc CFA. La France et ses alliés ne sont pas au bout de leur surprise. La résistance multidimensionnelle malienne ne fait que commencer. Bolloré a plaidé pendant des siècles et des décennies à la dilapidation des richesses africaines en ayant son emprise sur les ports de l'Afrique. Mais depuis quelques jours, les médias mainstream font état du retrait des activités logistiques du groupe Bolloré sur le continent africain en les cédant à son ancien rival, MSC, pour 5,7 milliards d'euros. L'annonce intervient à l'extrême limite de la période de négociation exclusive entre les deux groupes, ouverte le 20 décembre, l'opération devant être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2023, selon un communiqué publié par Bolloré, jeudi soir. La branche Bolloré Africa Logistique, qui possède des infrastructures dans plus de 20 pays sur l'ensemble du continent, parmi lesquels un réseau de 16 concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires, suscitait également l'intérêt d'autres acteurs du transport maritime, Maersk et CMA, CGM. Mais Bolloré avait accordé à MSC, Mediterranean Shipping Company, une exclusivité après que l'armateur italo-suisse a transmis une offre initiale de 5,7 milliards d'euros déjà. Basé à Genève, MSC appartient à la famille italienne Aponte et revendique une flotte de 560 navires et plus de 100 000 employés. Il est clair que ce retrait se fait sous l'ordre des États-Unis qui veulent d'abord d'une emprise totale sur les ports et les réseaux ferroviaires de l'Afrique et de l'autre injecter la drogue et la mafia dans l'ouest de l'Afrique. Mais pourquoi avoir choisi MSC où on soupçonne la volonté américaine de propager ce mafia à travers l'Afrique? En effet, cette compagnie n'a pas une si bonne réputation. En 2019, en juin dans le port de Philadelphie, une saisie record de cocaïne est faite dans le MSC Guyane, appartenant à la banque JP Morgan, mais exploitée par MSC. Ce sont environ 20 tonnes de drogue, d'une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars, qui ont été chargées de nuit en mer à partir de vedettes rapides entre les côtes de Pérou et de Panama, puis camouflées durant le voyage dans 7 conteneurs de vin, de noix, de déchets électroniques. C'est la saisie la plus importante jamais faite aux États-Unis. MSC a été momentanément suspendu du programme de contrôle du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. MSC a ensuite dit avoir dépensé plus de 100 millions de dollars pour améliorer la sécurité dans l'entreprise, précisant que MSC continuerait à collaborer avec les douanes et les autorités policières comme elle le fait depuis longtemps aux États-Unis. C'était la troisième perquisition ayant permis de découvrir des stupéfiants faits sur des navires MSC exploités dans l'année. Les médias mainstream ne se gênent pas de qualifier cette compagnie de trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue ont sans doute pris au mot le slogan de la compagnie genevoise Mediterranean Shipping Company MSC. Le leader mondial dans le transport de conteneurs vous assure que votre cargaison est toujours en bonne main, lit-on sur lepoint.fr. Ce n'est pas sans raison que le peuple africain, que ce soit celui de l'Afrique de l'Ouest, de la Corne de l'Afrique ou du Sahel, que demande sans cesse le retrait de toute instance ayant des liens avec l'axe SOTAN. En commençant par attaquer les armées africaines, cet axe déstabilisateur a poursuivi son plan en affaiblissant les économies africaines. Et c'est ensuite, en cherchant à transformer le continent en un hub de la drogue, que l'axe SOTAN tente de jouer sa dernière carte. L'axe occidental cherche à déposséder le continent de toutes ses richesses et il semble vouloir le faire par la porte du trafic de la drogue. Alors que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest menace de prendre des sanctions économiques et financières contre la Guinée en cas de non-publication d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril 2022, le chef de la diplomatie guinéenne minimise l'ultimatum, assurant qu'il n'y a pas de péril en la demeure, invoquant la libération d'Alpha Condé en séjour médical à Abu Dhabi depuis le 17 janvier. Maurice Anda Kouyaté, qui s'est exprimé mercredi sur la RTG, assurait qu'il n'y aura pas de sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Dans quelle situation se trouve la Guinée en ce moment? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
En Guinée-Conakry, il se passe un retournement géopolitique. Au départ, c'est un coup d'État pro-américain. Le lieutenant-colonel Dombouya, c'est l'officier de liaison près de l'Africom. Et on dit même que le coup d'État a été opéré par les gardes privés, donc les mercenaires qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis. Mais petit à petit, pour des raisons économiques, le lieutenant-colonel Dombouya s'est retourné et il est maintenant sur des positions pro-russes. Il faut savoir que d'une part, il y a le contentieux de la CEDEAO avec le Mali, auquel il a imposé des sanctions, et que la Guinée-Conakry n'a pas voulu suivre les sanctions parce qu'elle aurait été aussi lésée économiquement que le Mali. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que depuis le début des années 2010, la Guinée-Conakry est l'objet de ce qu'on appelle le cœur de la guerre des mines qui oppose des multinationales israéliennes, russes et américaines en Amérique latine mais aussi en Afrique, et notamment le fameux George Soros. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, il y a en particulier une opposition entre les firmes d'aluminium sous contrôle américain et ukrainien et les firmes russes. La Guinée-Conakry a refusé d'appliquer les sanctions américaines. Elle a refusé de prendre parti dans cette guerre des mines. Au contraire, elle a une position neutre qui est favorable à la Russie. Et donc, évidemment, il y a cette hostilité de la CEDEAO. Il faut savoir que la CEDEAO, c'est un syndicat des pays alliés aux Occidentaux. Il y a le Ghana qui est le président en exercice, le président du Ghana de la CEDEAO. C'est la porte d'entrée de Berlin en Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire et le Maroc qui sont les principaux alliés de Paris. On dit même d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, qu'il est un sous-préfet français. Il y a dedans, enfin, Isofou, qui a fait de son pays, le Niger, le cœur de la guerre américaine au Sahel. Et enfin, il y a les anglo-saxons, Londres et Washington, avec Buhari au Nigeria. Le Nigeria est entièrement économiquement dans les mains de Londres et il participe à un projet lié au Brexit qui est de s'emparer des marchés français pour le compte des Britanniques et des Américains. Donc la CEDEAO est tout à fait dans une position anti-russe et actuellement elle se sert de l'arme des sanctions contre le Mali, mais aussi contre la Guinée-Conakry pour attaquer des régimes pro-russes. Voilà la réalité de ce qui se passe. C'est une séquelle du dossier russe qui est en train de s'étendre en Afrique. On sait que la guerre économique ouverte par les sanctions, c'est maintenant une question internationale. Poutine, avec intelligence, en a fait une question internationale qui concerne aussi le Proche-Orient et là.
Au Kenya, lancement d'une usine de transformation de bananes de 1,3 million de dollars dans le comté de Kisii. Au Kenya, l'exécutif a inauguré le lundi 28 mars une usine de fabrication de farine de bananes dans le comté de Kisii, dans le sud-ouest du pays, d'un coût total de 158 millions de shillings et financé par l'Union européenne ainsi que le gouvernement du comté. La nouvelle unité pourra traiter environ 80 tonnes de bananes par jour. Elle dépendra des agriculteurs locaux pour son approvisionnement en matières premières. Grâce à cette initiative, les autorités entendent faire face à différents défis auxquels font face les producteurs, comme les pertes post-récolte ou encore l'instabilité des marchés d'écoulement. Au Sénégal, une table ronde des hommes d'affaires russo-sénégalais s'est tenue à Dakar ce jeudi 31 mars. Le président du Tataristan, République de la Fédération de Russie, a fait le déplacement. Une rencontre économique alors que le Sénégal, considéré comme un allié des Occidentaux, s'était abstenu lors du vote de la première résolution l'ONU de mars, exigeant l'arrêt immédiat du recours à la force de la Russie en Ukraine. C'est dans une salle du centre des congrès de l'hôtel de luxe King Fahd que s'est tenue cette table ronde sur la coopération entre la République du Tataristan, le Sénégal et la Gambie. Comme l'indique l'écriteau à la rentrée, parmi les personnalités annoncées côté Tataristan, les dirigeants de l'usine d'hélicoptères de Kazan, de la société de poids lourds Kamaz ou encore de la compagnie pétrolière Tatneft, le président du Tataristan, Roustam Minikhanov, a été accueilli à Dakar par Moïse Sarr, secrétaire d'État sénégalais chargé des affaires extérieures, précise l'ambassade de Russie. Tchad, Nigeria, le PCMT se rend à Abuja pour une visite de quelques heures. Dans le cadre de la coopération entre le Tchad et le Nigeria, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin pour Abuja. Dans la capitale nigériane, le chef de l'État effectue une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Le chef de l'État a été salué à son départ à l'aéroport international à Saint-Djamous par quelques personnalités. Il s'agit notamment du premier ministre de transition, M. Paimi Padaki Albert, de quelques membres du Conseil militaire de transition, ceux du gouvernement, le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet civil du chef de l'État et le maire de la ville de N'Djamena. Le président nigérien Mohamed Bazoum a entamé jeudi une visite de 48 heures au Nigeria, a annoncé le présidence nigérienne. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, effectue du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril une visite de travail et d'amitié en République fédérale du Nigeria, a indiqué un communiqué de la présidence nigérienne consulté par l'agence Anadolu. Les entretiens du président de la République, Mohamed Bazoum, avec son homologue Mohamedou Bouhari, porteront sur les questions de sécurité qui intéressent les deux parties, avec les agissements du banditisme résiduel transfrontalier entre les États de Zamfara, Katsina, Sokoto et les régions de Maradi et Taoua, ainsi que le foyer dans l'État du Borno de Boko Haram, avec les attaques sporadiques dans la région de Diffa, a ajouté la même source. Les relations économiques seront au centre des discussions dans la mesure où le Nigeria joue un rôle éminent en étant l'un des principaux clients et fournisseurs du Niger, a insisté le communiqué de la présidence nigérienne, précisant que la question énergétique est un des sujets de l'ordre du jour, expliquant que l'objectif du Niger est de réduire la dépendance de l'électricité importée du Nigeria.